Andrei Gretchev, la Russie aujourd'hui est de retour, ce qui veut dire qu'aujourd'hui la Russie se reprend une place qu'elle n'aurait jamais dû quitter.
Absolument, il s'agit d'une situation, après tout, on peut même la qualifier comme le retour au normal, parce que c'était l'absence de la Russie de la scène internationale suite à l'effondrement de l'ex-Union soviétique, qui constituait l'anomalie, je dirais même une sorte de déséquilibre dans les relations internationales. Et il est évident que cette nouvelle Russie, qui serait à travers la période de sa transition intérieure, était trop absorbée, trop occupée par peut-être sa recherche intérieure, était en train de se définir, y compris du point de vue de son orientation stratégique, politique, du point de vue de ses alliances. D'où ce phénomène assez particulier. Le président russe Vladimir Poutine, qui est installé aux commandes de l'État depuis l'an 2000, il commence par se présenter en tant qu'allié potentiel de l'Occident, en commençant par les Américains. Donc, première étape, Poutine l'Américain, qui au moment du 11 septembre est prêt à proposer à l'Amérique de George W. Bush la pleine coopération dans la lutte contre les talibans. C'est de cette façon que Poutine essayait de trouver la voie vers le rétablissement du statut de la Russie, la grandeur perdue de l'ex-Union soviétique sur la scène internationale. Peine perdue parce que pour les Américains de l'époque, la Russie que ne faisait plus peur, comme l'Union soviétique de l'époque de la guerre froide, ne représentait pas un intérêt particulier. D'où l'accumulation des épisodes de marginalisation de cette Russie, de son humiliation politique et stratégique, en commençant par la guerre en Yougoslavie, avec les opérations de l'OTAN qui étaient entreprises, même en contournant le mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite vient l'intervention américaine et britannique en Irak. Cette fois, Poutine essaye de s'allier à l'Europe. Poutine l'Européen, qui s'allie à Chirac et Schröder dans l'opposition à l'intervention anglo-saxonne en Irak. Mais ceci n'aboutit non plus à une sorte d'institutionnalisation de l'Union ou d'une sorte de la nouvelle entente entre la Russie et l'Europe, parce que, faut bien le dire, le grand projet de Gorbatchev, de la maison commune européenne, qui pour lui devait servir autant sur le plan intérieur politique à l'époque de l'Union soviétique pour la réformer, pour la moderniser, pour la re-européaniser, n'est pas allé loin parce qu'une partie importante de cette nouvelle Europe qui s'est alliée à l'Union européenne, anciennement membre du pacte de Varsovie, ne voulait du tout l'intégration de la Russie dans ses structures occidentales. La Russie traditionnelle, la Russie menace éternelle, la Russie en quelque sorte le mal absolu, qu'elle soit soviétique ou post-soviétique. Donc, on est devant une situation où la Russie, à la sortie de sa transition après l'effondrement de l'Union soviétique, se trouve en statut d'un pays seul, isolé, non pas admis dans la famille européenne pour laquelle Gorbatchev, de toute façon, espérait la présenter. D'où vient Poutine numéro 3, Poutine l'Eurasien, Poutine qui, en coupant les liens traditionnels, historiques, séculaires de la Russie avec l'Europe, qui datent de l'époque de Pierre le Grand, se réfugie dans la construction particulière, bizarre, assez artificielle, d'une sorte de l'Union eurasienne, un pôle isolé qui pourrait peut-être avoir l'ambition d'être un partenaire égal entre l'Amérique, l'Europe et la Chine.
Ce n'est plus l'Union soviétique, ce n'est pas exactement une forme d'Union européenne déguisée.
Ce n'est pas exactement une Union européenne déguisée, même si la logique choisie pour la construction de cette Union européenne a été emportée de l'Union européenne, parce que n'ayant plus la force de la coercition, la force brutale et la force d'occupation de l'ex-Union soviétique et de l'armée rouge, Poutine devait bien sûr s'appuyer sur les arguments de la nouvelle Russie, de la Russie post-soviétique, les arguments de la Russie qui se projetait dans le statut de la superpuissance énergétique, s'appuyant sur ses atouts du pétrole, du gaz. C'est avec ce dessin que l'Union eurasienne devient une sorte de remake de la doctrine Monroe à la russe, une tentative d'organiser l'espace post-soviétique, ou ce qui reste de cet espace, puisque les Pays-Baltes, de toute façon, en étaient partis, essayant de le protéger contre les tentatives d'expansionnisme à la fois occidental, avec la progression des structures de l'OTAN et de l'Union européenne, mais aussi chinoise, avec les appétits chinois assez évidents en direction de l'Asie centrale. Qui, après tout, s'est avéré fatal pour ce projet de Poutine, c'était le problème de l'Ukraine. Parce que point de l'Union eurasienne, sans la participation, sans l'intégration de l'Ukraine dans cette structure, même si des républiques, de nouvelles États post-soviétiques, comme la Biélorussie, le Kazakhstan, certains États de l'Asie centrale, acceptaient de jouer le jeu, encore une fois, lié à la Russie actuelle par leur dépendance du passé, par leurs relations économiques, par leur dépendance énergétique. Le fait que l'Ukraine finalement a choisi de déserter, de fuir ce projet, de choisir le camp occidental séduit par les propositions de l'Union européenne, a porté un coup fatal à cette construction eurasienne de Poutine, ce qui doit expliquer sa réaction violente face à ce qui était perçu à Moscou comme non seulement un nouvel exemple de l'expansionnisme occidental avec la perspective de l'Ukraine après Maïdan devenant membre un jour de l'OTAN, mais aussi avec un danger politique pour le système poutinien à l'intérieur de la Russie, avec l'exemple de Maïdan, c'est-à-dire le soulèvement populaire qui conteste le pouvoir corrompu, autoritaire de l'élite qui essaie de se protéger, de se pérenniser au pouvoir, était perçu par la Russie comme peut-être la répétition grandeur nature d'un scénario qui pourrait un jour s'appliquer à la Russie. D'où la pratiquement tentative de Poutine de prendre la revanche sur la perte de Kiev en Crimée, justifiée pour ce qui concerne les élites russes par les arguments d'ordre de stratégique, mais de l'époque de la guerre froide. Parce que d'un coup, après tout, la brouille entre les Russes et les Ukrainiens est passée du niveau de bagarre familiale entre les Russes et les Ukrainiens à une confrontation stratégique Est-Ouest, avec, pourquoi pas, la perspective de voir un jour Sébastopol se transformer en la bases de navales de la flotte américaine en la mer Noire, portant aussi un coup grave au statut et à la réputation du président Poutine à l'intérieur de son propre pays.
Au niveau intérieur, le projet de société évolue. On part aujourd'hui d'un retour au conservatisme dans les valeurs développées aujourd'hui par Poutine et son équipe à l'intérieur de la Russie.
Il est vrai, il s'agit en fait des batailles d'arrière-garde, on peut dire. Il s'agit d'un Poutine qui, ayant commencé à l'époque de la Russie faible et impuissant par les projets de se coller, en quelque sorte, ses partenaires occidentaux, dans l'espoir d'associer la Russie et de la faire revenir sur la scène internationale, a reculé en prenant conscience de ce que la Russie est éjectée, en quelque sorte, du projet de la Grande Europe, parce que non voulu surtout par cette nouvelle Europe orientale, Europe de l'Est, plus atlantique que même parfois la Grande-Bretagne, traditionnellement alliée des États-Unis. Et donc, dans le cas de la Russie, il s'agit d'une élite actuelle qui n'hésite pas à annoncer la rupture avec une orientation historique des élites russes qui datent de plusieurs siècles, en commençant par Pierre le Grand. L'orientation de l'alliance organique de la Russie avec l'Europe, avec l'objectif finalement de se servir de l'Europe comme levier de la modernisation, de l'européanisation de la Russie. Ce que, en même temps, en échange, offrait à l'Europe une chance d'aller de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Or, suite à l'effondrement de ce rêve européen, suite à la faillite de projets de l'Union eurasienne, la dernière ligne de la défense du régime de Poutine à Moscou, c'est la construction d'un monde russe qui s'érige en une sorte, en image d'une forteresse assiégée par les ennemis extérieurs, avant tout les Occidentaux, qui défie la Russie parce que indépendante et courageuse et n'acceptant pas la règne de l'ordre imposé par l'Occident après la fin de la guerre froide et après la disparition d'un contrepoids de taille stratégique que représentait l'Union soviétique. D'où prend la racine la nouvelle stratégie de cette Russie poutinienne qui revient et qui essaie d'imposer le retour de la logique de la politique internationale à l'époque de la guerre froide, puisque c'est à l'époque de la guerre froide que la voie de la Russie était respectée, la voie de l'Union soviétique, parce que c'est à cette époque que la Russie faisait peur. La leçon de la réelle politique tirée par Poutine de toutes ces années qui ont succédé à la guerre froide, c'est que la Russie, à nouveau, doit redevenir un facteur de trouble, un facteur de souci, un facteur de résistance à cette tentative d'imposition d'un règle occidental, d'autant plus que cette tentative occidentale, s'avère ne pas être du tout efficace, ce qui est manifesté par les faillites des opérations américaines, otaniennes, occidentales, à partir de l'Afghanistan, en passant par l'Irak et la Libye jusqu'à la Syrie.
Avec les sanctions, avec ce qu'on voit aujourd'hui, on a connu à un moment donné une opposition qui se manifestait. Aujourd'hui, comment l'opposition ? Est-ce qu'elle existe encore, la société russe ? Comment se reconnaît-elle dans ce nouveau régime ?
Comme tout pays qui se voit en guerre Et là, c'est un sort de mélange des motivations du régime en place. Par contraste, à l'époque de la véritable guerre froide, l'actuelle, la nouvelle, qui est en quelque sorte une remake politique, un bluff voulu et souhaité par le pouvoir en place, est inspiré dans une grande mesure par les motivations politiques. Et ces motivations, c'est une sorte de la redéfinition d'un contrat social entre le pouvoir en place et la société russe. Ce contrat social qui, après tout, reposé pendant au moins une quinzaine d'années, porté par la tranquillité, la stabilité économique de la Russie, assurée par le prix du pétrole et du gaz confortable, et qui permettait au régime actuel non seulement d'assurer à des pannes importantes de la population russe d'accéder à une prospérité garantie. Ce qui est incontestable, c'est l'apparition de la couche moyenne importante dans la société russe, un élément que cette société n'a pas connu, même à l'époque soviétique. La stabilisation politique en est le résultat, tout comme l'autorité et le soutien, la popularité, assez peu compréhensible à l'Occident, du président lui-même.
Je veux dire que la classe moyenne soutient en fait le président parce que les sanctions, par exemple, occidentales contre la Russie, finalement, la desservent principalement.
Les conditions du contrat social précédent, après tout, étaient assez simples. La société qui n'était pas gâtée par la prospérité économique à l'époque soviétique, ayant découvert la société de consommation, la tranquillité qui a succédé au chaos des années yeltsiniennes, était prête à accorder au pouvoir en place le règne pratiquement sans contestation. À partir du moment où la base économique de ce contrat social s'effondre, il était logique de ce que le régime reparte à la redéfinition de ce contrat et il le trouve dans l'exaltation des sentiments nationalistes, anti-occidentaux. Et de ce point de vue, paradoxalement, la guerre des sanctions économiques déclarée contre la Russie suite à son action agressive contre la Crimée et l'Ukraine dans la crise récente font le jeu du pouvoir parce que ajoutent des arguments à toute la propagande officielle qui présente la Russie comme victime de l'expansion et même de l'agression, de l'offensive politique et stratégique occidentale.
Si on regarde maintenant dans l'actualité, par exemple, l'importance que la Russie a prise dans les négociations internationales, notamment sur le cas de la Syrie, est-ce qu'on peut dire que le fait que le réarmement très fort ou la modernisation de l'armée russe par Poutine sous son deuxième mandat, cette transformation, cette efficacité militaire qui est démontrée, compris sur le terrain, le fait de dire on vient, on est efficace et puis on repart quand il le faut, tout ça c'est quoi? C'est une manifestation de musculation du pouvoir russe pour prendre sa place et l'affirmer au niveau international?
La crise syrienne a offert en quelque sorte à Poutine une possibilité souhaitée de trouver finalement une porte de sortie de la situation après tout très précaire et très préoccupante politique internationale de la Russie parce que avec tout le bras de fer qu'il a accepté d'engager avec l'Occident, n'hésitant pas à contester l'ordre mondial imposé par les Occidentaux après la disparition de l'Union soviétique, cette offensive politique et diplomatique de la Russie était conçu avec la présomption de ce que la Russie pourrait en effet s'appuyer sur sa stabilité économique retrouvée, sur le soutien populaire garanti au régime en place, ce qui devait transformer la Russie de Poutine en un partenaire incontournable de l'Occident sur la scène internationale. À partir de la succession des crises ukrainiennes et syriennes, la Russie a dû constater de ce que les arguments de valeur qui lui restaient dans ce bras de fer engagé, c'était les arguments de l'époque révolue, de l'époque de la guerre froide, les arguments de la force militaire. Avec la crise syrienne et l'intervention militaire de la Russie depuis le 30 septembre, Poutine a pu, d'une pierre, faire plusieurs coups. D'une part, sauver le régime d'Assad, qui devient immédiatement un point d'appui pour la Russie et elle a une chance pour son retour stratégique dans cette région importante du monde. D'autre part, c'était une possibilité, une occasion pour faire preuve de la valeur des nouveaux arguments de la Russie dans une éventuelle confrontation militaire avec l'Occident, la transformant en un facteur de valeur, ce qui n'était pas pris très au sérieux au départ par les chanceliers occidentaux, et finalement a accordé à Poutine une possibilité de trouver une sorte de porte de sortie de son statut de l'isolement international sur la scène politique, en s'offrant à l'Occident, encore une fois, comme un partenaire dans la recherche des solutions politiques. Mais un partenaire dont l'opinion doit être prise en considération, un partenaire qui redevient, si c'était pas comparable ou égal à l'ex-Union soviétique, mais de toute façon, un des co-gérants de cet ordre nouveau mondial que jusque maintenant était perçu par l'Occident comme une sorte de son privilège personnel.
On vient de parler beaucoup de la perception de la part de la Russie, du point de vue russe de cette situation. Est-ce qu'on peut dire qu'en Occident, on est conscient de cela ?
Le problème de la perception de l'Occident des motivations de la Russie varie en fonction de l'évolution des crises dont certaines sont provoquées par l'action occidentale. Puisqu'après tout, Poutine, faut bien l'avouer, profite de pas mal des incohérences et peut-être de manque d'analyse occidentale, surtout, par exemple, pour ce qui concerne la situation non seulement au Moyen-Orient, mais en Ukraine. La complexité des problèmes, la diversité de facteurs qui doivent être pris en considération, finalement, conduisent à un effet souhaité dans pas mal de cas et proposé par la Russie, comme par exemple dans le cas de la Syrie, la nécessité de tenir compte de la présence du régime syrien en place et de l'État syrien. Dans le cas de l'Ukraine, l'allergie russe manifestée même il y a quelques années encore à la perspective de l'expansion des structures l'OTAN dans l'espace post-soviétique, qu'il s'agisse du Caucase avec la Géorgie ou qu'il s'agisse de l'Ukraine, a dû être prise en compte, encore une fois, par les Occidentaux. Finalement, on voit bien qu'avec peut-être un coût qu'on peut considérer comme excessif, mais on est amené à arriver à la compréhension de ce que dans le cas de traitement de la Russie, il faut sortir des stéréotypes qui rappellent trop la mentalité de l'époque de la guerre froide. Il s'agit finalement de la Russie post-soviétique qui n'a pas des ambitions de redevenir l'ancien empire ni l'ancien État impérial. Il s'agit d'un État qui se cherche sur la scène internationale, qui veut avoir sa place protégée et respectée, et ce qui est un élément de valeur, vu la situation et l'évolution de la situation de la Russie, qui veut être protégée contre les tentatives d'une sorte de régime change, d'imposition ou de l'introduction dans son évolution intérieure des modèles qui peuvent, comme c'était avéré dans le cas, par exemple, de certains pays arabes, des modèles occidentaux qui seraient contraires ou qui seraient peut-être non organiques à son évolution historique et politique naturelle.
Dernière question maintenant. Dans le fond, vous avez traversé toute la Perestroïka, vous avez conduit ce processus avec Mikhail Gorbatchev. Alors, la leçon de l'histoire que vous en tirez aujourd'hui, est-ce que Mikhail Gorbatchev a réussi son coup?
À mon avis, c'est une question qui attend encore les réponses. Gorbatchev lui-même est prêt à avouer que... Dans certains sens, il a réussi beaucoup plus dans la transformation de la scène mondiale que dans la transformation de la situation politique en Russie, avec une inertie historique extrêmement lourde et pesante, mais aussi avec un pays qui, suite à l'effondrement de son expérience soviétique et communiste au bout de 70 ans de l'histoire soviétique, a été déçu par les années, un quart de siècle déjà, de son existence dans ce monde nouveau, post-soviétique, post-communiste, où, contrairement à ses espoirs de l'époque, il n'a pas réussi à redevenir naturellement un membre de cette communauté internationale, statut auquel elle aspirait. La Russie n'est pas parvenue à trouver, à formuler un modèle compétitif dans ce monde globalisé. Voilà pourquoi elle n'a pas encore défini son choix historique. Elle continue à hésiter entre son orientation traditionnelle, on peut dire naturelle, de rejoindre l'Occident, mais à partir du moment où elle n'y parvient pas, elle joue avec les variantes de s'allier avec la Chine, avec le monde musulman, avec le monde émergent, dans l'organisation d'une sorte de contrepoids à l'Occident qui a péché par le triomphalisme à la sortie de la guerre froide.